J'améliore toujours l'aspect ou le goût, j'assure la conservation, je facilite la mise en forme et l'administration de ce fameux principe actif. J'ai l'aval de l'OMS, vous savez, l'organisation matinale du son. Je suis Jean-Jean l'excipient, bien le bonjour à tous. Au sommaire de cette émission du lundi 15 mars 2021, oui, c'est pas fréquent, souvent c'est la mideuse qui est là le lundi matin, on échange, on s'arrange comme on peut. En tous les cas, nous sommes ravis de vous retrouver après ces problèmes, les soucis de diffusion de la semaine dernière liés, vous savez, cette fameuse incendie des hébergeurs, des internets, du côté de Strasbourg. Ça a été réparé, on a une équipe formidable, on a des génies en fait à Principe Actif, c'est ça. Au sommaire de cette émission, nous parlerons plantation, puisque nous changeons de saison dans quelques jours. Au revoir l'hiver, hein. Bonjour le printemps. Et puis c'est le moment de penser à ce que nous pourrions planter ou semer dans nos jardins, sur nos balcons, pourquoi pas dans nos petits pots là, au pied des fenêtres, sur les rebords des fenêtres. Nous parlerons plantation bien évidemment, mais aussi formation, puisque nous avons ce matin deux représentants du lycée horticole d'Evreux, Hortipôle, on doit dire. Vincent Malo et Denis Châtelain. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Vincent Malo, vous êtes le directeur d'établissement. Denis Châtelain, vous êtes le directeur de l'atelier technologique. Nous aurons peut-être aussi du répondeur et puis nous aurons surtout de la bonne musique, hein, le tout toujours accompagné de cette magnifique bande son aux petits oignons. C'est, je le rappelle, le pire reste à venir. Tous les matins, 8h-9h, une rediffusion pour les leftards à 11h, pourquoi pas. Ça s'écoute sur Principe Actif 102.4, 95.9 dans le sud de l'Eure et puis la grande périphérie hébroïcienne, mais aussi chez nos amis d'HDR à Rouen. Voilà, Rouen et grande périphérie rouennaise. Je le rappelle, donc ce matin, dans le cadre du pire reste à venir, on parle formation, on parle plantation. On vous en dira davantage tout à l'heure. Allez, on démarre en musique et on se retrouve tout de suite après.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. east winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Voilà, qu'est-ce que ça fait du bien de démarrer calmement comme ça avec Harry Nilsson, Everybody's Talking. En fait, c'est une reprise parce que le titre original, enfin pas le titre, mais la personne qui a écrit cette chanson en 1966, c'est Fred Neil. Et c'est une reprise qui est sortie dans les années 68-69. Ce n'est ni plus ni moins que la bande-son du fameux film Macadam Cowboy.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Chers invités, tout va bien? Tout se passe bien?
Tout va très bien.
Pour l'instant, bon, on vous a pas encore entendu, mais ça ne saurait tarder, hein? On a beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter, de voir s'il y a du répondeur. Hein, l'idée, voilà, le matin, on claque le répondeur pour savoir si on a des petits messages ou pas. Parfois, il n'y a rien du tout. Mais on rappelle quand même le numéro de téléphone de Principe Actif. Et puis, que les gens, effectivement, peuvent laisser des petits messages. Répondeur, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir. Pourrais-je passer à l'antenne relativement à une antenne témoin?
Ah oui.
Madame, monsieur, bonjour.
Oui.
Je m'appelle Maria. Mmh. Je suis une artiste, auteur, compositeur, interprète. J'ai autoproduit un album et j'habite dans la région. J'aimerais bien participer dans votre émission avec mes chansons, si c'est possible. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Avec plaisir, Maria. Écoutez, on vous rappelle et on essaie de se prendre un rendez-vous, pourquoi pas sur une matinale.
Quit messing around with every man in town. If you want me, baby, you know I'll be around. Oh, it's a shame you keep playing games. Baby, stake your claim on me. Told you I love you, you just looked away. But when I went for the door, you begged me to stay. If you love me, baby, take my name. Oh, just stake your claim. Oh, stake your claim, yeah, yeah, yeah. You can't tie me down. If you want me, baby, you know I love you so. But if you don't say those three little words, I've got to let you go. Girl, to hold my hand, but if you just say the word, I'll forever be your man. Oh, no excuses, honey, no one to blame. Oh, stake your claim, stake your claim.
s'appelle Ellie Paperboy. Ellie Paperboy and the True Love Skate You Claim. Ce jeune quarantenaire, chanteur-compositeur américain. Voilà. C'est un gars qui a fait pas mal de choses. Université de Chicago, il a étudié la sociologie. Il a été animateur de radio, pour la radio de l'université. Il a joué également de l'orgue dans des églises. Et puis, de Chicago, il est reparti à Boston. Et là, il s'est mis à fond à la musique. Il a sorti son premier album en autoproduction. Et puis un premier album beaucoup plus important, plus médiatique, on va dire, dans les années 2008. Et on a écouté un titre d'Eli Paperboy and True Love, Stake You Claim.
Vous n'avez pas vu ma brosse à dents?
Principe actif 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure.
Et HDR Rouen, bien évidemment, avec le 99.1.
Merci, parrain.
Faut l'arracher.
Et nous sommes en direct, donc, ce matin, dans le cadre de cette matinale, dans le pire reste à venir, avec deux invités. Rebonjour, Vincent Malo. Rebonjour, Denis Châtelain.
Bonjour.
Vous êtes donc, vous représentez l'Hortipôle d'Évreux, le lycée horticole. Effectivement, ce matin, on va parler des métiers du paysage. Quand on parle des métiers du paysage, justement, de quoi parle-t-on très exactement?
Alors, merci de votre invitation, tout d'abord. Effectivement, c'est très agréable pour nous de venir parler de nos métiers.
Vincent Malo.
Alors, les métiers du paysage, effectivement, c'est ceux qui sont le plus représentés dans l'établissement, parce que 75 à 80% des jeunes qui viennent à l'Hortipôle font c'est pour se former au métier du paysage. Et donc, ils sont très divers, ces métiers du paysage, puisque ça va aller, effectivement, d'intervention sur les jardins en tant que jardinier paysagiste. Après, on peut devenir chef d'équipe, on peut être conducteur de travaux. Et puis, on peut intervenir dans les arbres pour faire des élagages. Mm-hmm. On peut réaliser des terrasses si on s'est spécialisé dans la construction paysagère.
Alors, l'élagage, c'est les messieurs qu'on voit en l'air, là, qui sont à harnais baudrier ou sur des plateformes ou alors dans les arbres avec les cordes, etc. Et qui taillent les branches pour pas que ça frotte sur les fils électriques.
Voilà, tout à fait.
Par exemple,
Voilà, c'est donc des élagages. Ouais. Et puis, il y a un ensemble de tailles et de soins qui sont réalisés sur des arbres parfois très grands. On a fait des
très
travaux
vieux,
dernièrement
très
sur l'atelier, là, justement. Ouais. Donc, c'est très intéressant.
Ouais. Des grandes missions aussi de sécurisation.
Denis Châtelain, oui.
On n'y pense pas souvent, mais les arboristes, enfin, on parle aussi d'arboristes.
Arboristes et lagueurs.
Les arboristes sont là pour diagnostiquer la santé des arbres, les soigner, et puis préserver, je vais dire, l'arbre et son environnement au sens général.
Mais oui.
Donc là, les lignes électriques, les bâtiments, la circulation dans les jardins publics, etc.
Mais bien sûr, ça peut être parce que ce sont des êtres vivants que l'on côtoie tous les jours, qu'on a proche de nous, et même dans les villes, pas que à la campagne. Les arbres, il y en a partout, fort heureusement d'ailleurs. Et on en reparlera tout à l'heure, mais on ose espérer qu'on en replantera davantage dans les
villes. Bien sûr,
on est même au cœur des villes également.
Pour promouvoir ça.
Bien sûr.
Alors, ce qui est très, très intéressant dans tous nos métiers du paysage, c'est qu'ils sont au cœur des problématiques d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, la gestion de l'eau, etc., eh bien, toutes ces problématiques, en fin de compte, ça interfère avec nos métiers du paysage, puisqu'on parlait des arbres en ville, par exemple, pour maintenir le climat propice dans nos villes.
Avec
à l'avenir.
Cette planète qui se réchauffe.
Les verdir.
Ben oui, au lieu de mettre du béton partout, il faut mieux quand même essayer de faire venir les forêts au cœur des villes, pourquoi pas.
Les forêts, les jardins au cœur des villes.
Et bien sûr, tout à fait. On aura l'occasion de toute façon de développer, d'en venir et d'y revenir dans cette heure de la matinale. Je voudrais revenir sur les structures. On parle de lycée horticole, on parle d'Hortipôle, on parle de CFA, on parle de CFPPA. Est-ce qu'on peut définir un petit peu tous ces acronymes et tout cet ensemble de structures qui composent la vôtre, en fait?
On va essayer de ne pas être trop assommant. Faut faire simple.
Bon, lycée horticole, on sait.
Alors, le lycée horticole...
C'est quoi? C'est de quoi à quoi? C'est pour y préparer quoi?
Donc, le lycée horticole, c'était historiquement, effectivement, dans les années 80, il y avait juste ce lycée horticole.
Ouais. Voilà.
Et puis, la structure s'est diversifiée avec l'apparition d'un centre de formation par apprentissage.
Bon, CFA.
De CFA, un centre de formation pour adultes, CFPPA,
d'accord.
Et l'atelier technologique en 2000.
Mm-hmm.
Et donc, on remplit du coup un ensemble de missions aussi, et on pourrait revenir sur l'atelier avec des missions d'expérimentation. On s'intéresse aux végétaux d'origine sauvage.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant un hortipôle, parce que, voilà, il y a toutes ces missions-là qui sont là. Et donc pour le lycée, au lycée, on fait des formations scolaires pour des élèves ou des étudiants.
À partir de la seconde.
C'est ça.
Ouais, il n'y a pas de collège.
Il n'y a pas de collège chez nous.
Non, il n'y a pas.
Après la troisième.
Après la troisième, c'est-à-dire. Et là, pour. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, on peut démarrer par un certificat d'aptitude professionnelle, un brevet professionnel, mais aussi un bac pro. Voilà.
Il y a tout ça.
Il y a tout ça. Très bien, on a parlé donc de cette structure, des différents métiers qu'on pouvait exercer à l'issue donc d'une formation et d'un diplôme validant et d'un parcours, effectivement. Mais il y a combien de techniciens, de formateurs, d'ingénieurs qui gravitent autour pour former toutes ces personnes, des jeunes gens ou des personnes plus âgées, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais on peut venir aussi pour des mini-stages. Alors, il y a combien de personnes qui gravitent autour de cet hors-tipôle?
Alors, hors-tipôle, c'est une petite centaine de personnes au total, dont, on va dire, en enseignant et formateurs 46 personnes, et donc qui peuvent intervenir, donc soit sur les formations scolaires ou les formations apprentissage ou adultes.
Oui.
Et sur l'atelier technologique,
c'est 3 salariés qui sont à temps plein pour produire des végétaux, puisqu'on est une exploitation, on est une ferme, une ferme horticole pour faire très simple, et aussi un atelier de prestation en activité, en aménagement, jardin, espace vert. Donc, on a une salariée qui s'occupe avec des jeunes de venir intervenir sur des jardins aux particuliers ou aux collectivités.
Ouais.
Et puis, 2 salariés plutôt dédiés, enfin, qui sont dédiés à la production, à l'accueil et à la vente des végétaux.
Ah, il y a carrément comme un magasin, en fait.
On est une pépinière au sens
propre du terme.
Une ferme pépinière là-dessus où on produit plantes à massif, plantes de légumes et puis arbustes et arbres. Pour l'aménagement du jardin.
Est-ce que tout ça se situe au même endroit et ça couvre combien? C'est plusieurs hectares, c'est quelques centaines de mètres carrés.
L'atelier technologique, il fait au total 4 hectares de superficie. Il y en a un quart, on va dire, dédié à la production pure et dure, pour faire très simple. Le reste est plutôt des plateaux pédagogiques et de démonstration et d'expérimentation, puisqu'on essaye de montrer le paysage d'hier et surtout de réfléchir au paysage de demain.
Ouais.
Avec l'intégration de végétaux sauvages à l'intérieur des espaces paysagers et l'étude du comportement aussi des végétaux par rapport aux évolutions climatiques diverses.
C'est un peu, on parle de quoi? D'éco-responsabilité, d'éco-conception, de...
C'est ça. Alors on fait de l'éco-conception paysagère, c'était la base, et puis oui, on est vraiment dans la durabilité du paysage et maintenant, l'intégration à l'intérieur de ces paysages d'une marque qui est le Végétal Local, qui est une marque créée par les organismes du paysage et associée au Conservatoire National Botanique.
Ouais.
Donc, c'est une filiale du Muséum d'Histoire Naturelle.
Je me pose une question. Est-ce que il y a des végétaux qui étaient là, qui existaient peut-être il y a 100 ans ou il y a 50 ans? Qui n'existe plus, ou est-ce que vous les protégez? Est-ce que et à contrario, est-ce que on est à même de planter ou de semer des végétaux, des arbres ou des plantes aujourd'hui qui vont avec ce réchauffement de la planète un peu là, qui vont être bien en Normandie par exemple, des cactus, de la canne à sucre, pourquoi pas des bananes.
Est-ce qu'il
y a une modification de cet ordre-là?
Il y a plein de travaux qui ont lieu de ce point de vue-là. Alors, sur l'expérimentation qu'évoque Donny tout de suite, c'est plutôt effectivement de voir comment la flore originelle un petit peu de Normandie, comment elle peut être conservée, maintenue, et comment on peut faire en sorte que ça soit un facteur de résilience pour nos jardins. Et puis, alors sans que ça soit vraiment notre métier, je sais aussi qu'au niveau des forêts, par exemple, aujourd'hui, on plante des espèces nouvelles aussi, parce que qui sont traditionnellement plutôt qu'on trouve plus dans le sud de la France,
mais
qu'on plante ici parce qu'on prépare aussi l'adaptation de la forêt, voyez, à des changements quoi.
On voit ça avec la vigne. Enfin, quoi que la vigne, elle existait déjà avant. Il y a plus de 100 ans.
Il y a longtemps.
Avant le phylloxéra. Mais maintenant, aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens, on travaille là-dessus et on commence à produire aussi du vin au nord de au nord de la Loire et, et même au nord de la Seine.
Nord de la Seine, puisque sur les terrils du Nord, hein, on a des vignobles maintenant. Donc en fait, tout ça, ça vise à protéger la biodiversité, à faire en sorte qu'on ait une plus grande diversité, biodiversité possible, aussi bien végétale qu'animale. Et donc, après, les initiatives sont diverses et variées. Nous, on explore plus particulièrement une chose, hein, mais bon, on n'est pas, bien sûr, exhaustif sur toutes les initiatives qui peuvent être prises. Mais ça nous ramène au métier et aux enjeux dont on parlait au départ, le réchauffement climatique.
Exactement.
Et ce qui fait que les métiers sont très intéressants et certainement très porteurs d'avenir, puisqu'on est susceptible d'agir sur ces problématiques-là qui sont très prégnantes.
On est en constante évolution.
On est en constante évolution, en constante révolution aussi. Et puis, je dirais que on se rend compte que le paysage a été très très exotique et très exubérant, avec des importations. Alors, la mondialisation dans le paysage existe depuis la colonisation. Voilà, donc ça fait 5 siècles que nous, la mondialisation du végétal existe sans aucun souci. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, fin de compte, les plantes néo-zélandaises sont peut-être très bien chez nous, posent des fois beaucoup de soucis, et que on a peut-être des plantes peut-être moins exubérantes, mais qui sont normandes et locales, et qui peuvent rendre service bien plus à la biodiversité. Et en rendant service à la biodiversité, c'est à l'ensemble des personnes locales.
Ce que vous êtes en train de nous dire, Denis, c'est qu'en fait, on privilégie quand même ce qui était présent, les plantes normandes, ce qui était là avant, ce qui était...
C'est une combinaison, en tout cas. C'est ça qu'on cherche à faire, c'est-à-dire remplir un ensemble de fonctions. C'est-à-dire que le jardin, on est bien d'accord qu'on souhaite toujours qu'il soit beau. Si on fait un jardin, c'est quand même pour que...
On est d'accord.
Quand on ouvre ses volets, quand on ouvre sa fenêtre, on soit content de voir ce jardin. Mais au-delà de la qualité esthétique, c'est de se dire, mon jardin, il est accueillant pour les oiseaux, il est accueillant pour les insectes, il lutte contre le réchauffement climatique, je gère mon tas de compost, donc je stocke du carbone, et ça, c'est bon pour la planète. Et puis, j'entretiens des liens sociaux avec mon voisin, puisqu'on a échangé nos premiers radis, etc. etc. Donc, oui, c'est un petit peu ça.
Oui, j'ai bien compris. Voilà. Votre sentiment, Denis, quand vous voyez, par exemple, chez des particuliers, des palmiers ou des bananiers ou des palmiers qui sont dans le jardin ?
Moi, je dis, il faut être très, très modeste dans le jardin. C'est le plaisir de chacun, donc ça ne me choque pas. Le tout, c'est de pouvoir combiner les choses entre les choses qui seront favorables à la faune, favorables à son souhait, à son choix, et puis de pouvoir éventuellement compenser. Je dirais, on peut avoir un jardin très exotique. On parlait tout à l'heure de cactus, de plantes très sèches, parce qu'on a un jardin très sec. Mais à côté de ça, si on a un bon tas de compost qui va accueillir ces vers de terre, et puis qu'on laisse quelques... On va utiliser le terme que j'aime pas, les mauvaises herbes, nos adventices qui nous choquent sur nos trottoirs. Eh ben ça va attirer quelques abeilles, ça va attirer quelques oiseaux. Et je citerai la remarque des Parisiens ou peut-être des Rouennais si on peut faire ça, c'est de se dire que pendant les 2 mois de confinement, ils ont jamais vu autant d'oiseaux chez eux que ce qu'il y avait
avant,
que ce qu'ils ne voyaient pas avant. Ils étaient là, ils sont pas venus parce qu'il y avait le Covid. Ils étaient là, mais ils ont eu la quiétude. Et puis, les gens se sont un peu occupés des jardins. Et puis, ils ont pris le temps de réobserver la vie qui est alentour d'eux.
Les voir et les écouter aussi, parce que les oiseaux, ça chante.
Aussi, et oui, les oiseaux,
plutôt,
ça chante.
C'est plutôt sympa, là. Hein, ils nous réveillent le matin. Je vous rappelle que nous sommes en direct, donc la matinale, ce matin, lundi 15 mars 2021, avec des représentants de l'Hortipôle d'Evreux, lycée horticole, CFA, CFPPA, toute cette structure. On parle de métiers, de paysages, notamment. On est donc en compagnie de Vincent Malot, qui est le directeur d'établissement, et Denis Châtelain, directeur de l'atelier technologique. Un petit peu de musique et on se retrouve juste après les 8h24.
Oh,
Ben voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Scatelet? Alors, attendez, il faut que je retrouve ça, parce que les satellites, voilà, satellites jockeys, ce sont des Lyonnais. Le leader, comment s'appelle-t-il? Rémi Richard, mais son quintet, voilà, bienvenue, hein, à la pop un peu british, à la fois rétro et très actuel. C'est un album qui est sorti début février, le week-end, et le titre que l'on vient d'écouter, Paix sociale. Ben ouais, Paix sociale.
Le pire est sa vie. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HVR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
La matinale de 8h à 9h, c'est ce matin en direct. Nous avons donc les métiers du paysage à nos micros, les invités. Rebonjour Vincent Malot, Denis Châtelain. Donc je rappelle que Denis, vous êtes directeur de l'atelier technologique. Vincent Malot, vous êtes le directeur d'établissement du lycée horticole d'Evreux, de l'Hortipôle. Donc et on parle ce matin de. Bah, c'est normal aussi parce que dans quelques jours c'est le printemps. Donc on a toujours cette question à se poser. Qu'est-ce que je vais mettre dans le jardin? Qu'est-ce que je vais semer? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va planter? Voilà, l'hiver est en train de disparaître tout doucement et le printemps s'installe. D'ailleurs, est-ce que c'est la bonne saison là pour démarrer quelque chose, pour démarrer les plantations? On dit toujours bah oui,
printemps. Oh bah oui, c'est la bonne saison. Oui, je vais laisser Denis développer, mais effectivement au mois de mars on peut faire plein de choses.
Hein. Peut-être que non, on peut planter plutôt en novembre, en décembre.
Alors, on va dire qu'on est la saison charnière pour tout ce qui est potager, jardin et plantation pour l'année. Donc, c'est pour utiliser cette année. C'est vrai que l'automne est beaucoup plus approprié pour tout ce qui est plantation pérenne qui vont durer dans le temps, les arbres, les arbustes, les arbres fruitiers.
Voilà.
Là, tout ce qui doit s'enraciner assez profondément, c'est plutôt des choses qu'on va utiliser sur novembre, décembre. On peut encore aller maintenant, mais on va avoir des contraintes avec les problèmes de sécheresse.
La Sainte-Catherine, c'est au mois de novembre, la Sainte-Catherine.
Quand 23 ou 24 novembre.
Tout prend racine, est-ce que c'est vrai?
Oh, quasiment, oui, c'est certain. Il y a quand même beaucoup de vrai, hein, parce que le mois de novembre,
c'est ce que nos anciens disaient. Hein.
Bien sûr, c'est l'idéal pour planter. Après, aujourd'hui, si on est précautionneux, on peut jusqu'au mois de mars, évidemment, on peut faire beaucoup de choses. Bon. Simplement, il faudra être vigilant sur les semaines qui suivent, l'année qui suit, pour arroser bien régulièrement.
Ouais, c'est ça. Par exemple, si on veut planter des haies, il vaut mieux les planter au mois de novembre.
Bah, il vaut mieux les planter jusqu'au mois de février, on va dire.
Ouais,
on peut encore le faire là, c'est pas forcément un gros gros problème.
Mais il faudra davantage arroser.
Bah, il faudra être vigilant par rapport à la climatologie sur les mois compliqués qui sont de juin à septembre. Quoi.
Bon. Ce sont des sujets que on vous aborderait, je suppose, puisque effectivement, si on papote ce matin, c'est parce qu'il y a aussi des portes ouvertes très prochainement. Ça démarre samedi. Alors, c'est une façon un petit peu particulière. Covid, malheureusement, oblige. Mais l'Hortipôle, comme tous les ans, donc, propose des portes ouvertes pour présenter la structure aussi et puis les formations, mais pas que. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on présente aux portes ouvertes de l'Hortipôle?
Alors samedi 20 mars, donc
là, samedi ouvertes, là, voilà, le printemps,
le samedi qui
le
vient,
printemps,
absolument, avec le printemps, c'est vraiment la date idéale.
Ouais.
Et ça se déroule aussi dans le cadre de la quinzaine de l'apprentissage.
D'accord.
Quinzaine de l'apprentissage qui a démarré samedi dernier et donc qui permet d'avoir tout un ensemble d'actions pour les formations par apprentissage. Donc samedi, c'est la porte ouverte au niveau des centres de formation et du lycée chez nous qui va se dérouler de façon virtuelle. Et puis une porte ouverte aussi au niveau de l'atelier technologique, donc pour évidemment pouvoir accueillir toutes les personnes qui souhaitent réaliser des plantations et qui seront accueillis dans le respect évidemment des règles sanitaires.
Bon, alors donc deux choses, c'est-à-dire que là je me connecte samedi sur, c'est quoi, c'est une chaîne
sur... Alors c'est sur Zoom, là il y a donc les gens peuvent trouver le lien sur notre site internet eap.evreux.fr et donc ils s'inscrivent et donc ils vont obtenir le lien Zoom pour nous rejoindre samedi à partir de 9h. Ils seront accueillis donc dans une première salle d'accueil qui va nous permettre de faire connaissance avec eux, de savoir effectivement qu'est-ce qui les intéresse, hein, entre la formation scolaire, la formation par apprentissage ou les formations adultes. Et ensuite, on va les orienter vers des salles où nos collègues pourront les renseigner très précisément sur le bac pro aménagement paysager, le bac pro GMNF, le BTS, etc.
Non.
Et voilà.
Donc ça, c'est de façon virtuelle, enfin via les sites internet. Donc, oui. Et en présentiel, il y a cette possibilité quand même de se déplacer, de pouvoir venir vous rencontrer, venir faire ces provisions de végétaux et de
sur l'atelier,
au niveau de l'atelier.
Donc sur l'atelier, l'atelier du végétal normand qui. Ouais. Et la partie un peu commerciale
de la structure,
de l'atelier technologique. Donc qui produit ses plans et qui est producteur, on vous accueille donc en face de Décathlon pour se localiser, ouais. Parce que le site du lycée, on est distant d'un kilomètre. Mm-hmm. Et puis on vous accueille toute l'après-midi de 14h à
17h,
à 17h30,
maximum. Voilà.
Sur le site, vous pourrez sans aucun souci faire le tour un peu de nos structures, parce qu'on a les plateaux pédagogiques pour les découvrir aussi un petit peu.
Ouais.
Comme on est tout en extérieur, on va dire que ça pose moins de soucis en termes des règles sanitaires. Et puis sur l'accueil du point de vente, puisqu'on est ouvert toute l'année, du lundi au vendredi, et là sur le printemps, le samedi aussi, tous les après-midi, pour vous diffuser de bons conseils et vous proposer des végétaux.
Tout à l'heure, vous parliez de cette possibilité d'intervenir aussi bien chez des particuliers que dans des structures
publiques.
Publiques, hein, oui, c'est ça.
Non, en ce moment, on a un gros chantier sur l'abbaye de Saint-Nicolas de Verneuil.
Par exemple, voilà. En tant que particulier, comment ça se passe? On vous contacte, vous intervenez pour établir des devis, vous nous conseillez. Ce sont des chantiers qui peuvent durer des semaines, des mois, ou alors bon, c'est sûr.
Alors on nous contacte, on travaille uniquement sur propositions et devis. Mm-hmm. Donc on a une salariée qui est dédiée à cette mission-là et qui va réaliser les chantiers avec des jeunes. Donc c'est toujours
avec des jeunes qui sont en formation.
Donc c'est toujours lié à la formation.
Ouais.
Donc on ne fait que des chantiers de création. Nous on distingue la création, c'est-à-dire la remise en état d'un jardin, la mise en place de végétaux et par rapport à une commande, et tout ce qui est entretien. Entretien, nous, on a 4 hectares sur notre site, il y a 3 hectares et demi, 4 hectares sur le site du lycée aussi. Donc, en termes d'apprentissage, des gestes à l'entretien, les jeunes ont largement de quoi faire chez nous, éventuellement sur leur stage en entreprise. Donc, nous, on ne fait pas de prestations d'entretien sur l'atelier technologique. Et donc, c'est contact soit par mail, soit par rapport à notre téléphone. Et après, on rappelle et on prend rendez-vous pour... nous, on parle de prendre la commande, d'identifier les besoins, la commande. Et si les chantiers sont trop conséquents par rapport à notre force d'action, on essaye de vous reporter sur des entreprises un peu partenaires qui prennent des maîtres de stage, nos maîtres de stage, nos maîtres d'apprentissage, qui, eux, ont les moyens de réaliser. Nous, il faut que ça reste à taille humaine. Hein. On est sur une équipe de 3 à 4 avec les jeunes... Enfin, une salariée plus entre 2 et 4 jeunes qui partent avec, sur la semaine, faire réaliser des chantiers. Donc, on ne peut pas se lancer sur des choses un peu trop grotesques.
On parlait tout à l'heure, on l'a abordé dans le cadre de l'introduction de l'émission, mais est-ce qu'on peut rappeler donc, les différents diplômes qui se préparent à la formation de ces métiers du paysagisme, au sein de la structure.
Au sein de la structure, oui, tout à fait. Donc, l'établissement, il propose une palette de formations qui vont du CAP à la licence professionnelle. Donc, voilà. Donc, on rentre chez nous après la troisième. Donc, on peut faire un CAP de jardinier paysagiste ou de producteur en production horticole. On peut faire un brevet professionnel aussi. Donc, toujours dans les métiers du paysage ou de la production horticole, des bacs professionnels. Alors, bac professionnel en aménagement paysager et aussi en gestion des milieux naturels et de la faune. Ça, c'est une deuxième filière aussi sur laquelle l'établissement est positionné. Ensuite, et après, donc, on peut aller jusqu'à une formation au BTS. BTS, c'est 2 ans après le bac. Et puis, depuis l'année dernière, on propose une licence professionnelle en partenariat avec l'IUT d'Évreux. Et donc, licence professionnelle, donc conception et gestion éco-responsable. Donc, ça, c'est le grand champ avec les formations principales. Et puis, on peut aussi se spécialiser en un an, après le bac ou après le BTS aussi. Parce que quand on se spécialise, bon, c'est pas... forcément, comme ça, on n'a pas tous les mêmes parcours, mais enfin, il faut avoir au moins un bac. Et donc, on peut se spécialiser, comme on disait tout à l'heure, dans les métiers d'arboriste et lagueur, dans les métiers de la construction paysagère. Donc là, il s'agit de réaliser des allées, des terrasses, des éclairages, des tas de choses comme ça. Et puis, à partir de la rentrée prochaine, on pourra se spécialiser aussi en conduite de production maraîchère. Donc, ce qui sera une formation aussi sur un an, pour laquelle on est en train d'installer un plateau pédagogique sur notre atelier.
Ce qui n'existe pas aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Donc, on va s'orienter aussi là-dessus, parce que c'est vrai que dans le contexte d'aujourd'hui, il y a une forte demande pour la relocalisation aussi de la production maraîchère. Et donc, il y a des besoins de compétences, soit pour les salariés des exploitations, ou bien pour des jeunes ou moins jeunes qui souhaiteraient s'installer même en tant que maraîcher. Donc, on va ouvrir cette formation-là. Donc, ça fait, je n'ai pas compté, combien 12 diplômes.
12 diplômes différents. Un panel important quand même.
Oui, c'est ça, c'est intéressant. Ouais. Donc,
Et c'est intéressant que vous le mentionniez, pardon, depuis cette problématique de Covid que nous connaissons depuis un an, ça y est, c'est parti, on est en plein dedans.
On a fêté anniversaire.
Happy birthday. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des changements Lesquels et comment, alors là, Denis, et comment ça s'articule cette histoire-là?
Denis pourra en parler aussi, parce que tout à l'heure, parlait des oiseaux qui reviennent dans les jardins.
Déjà avec les animaux, tout à fait. Ouais. Mais, et je pensais plus particulièrement aussi aux personnes qui viennent vous rencontrer et l'idée de faire son potager, de produire près de chez soi ou de consommer des produits plantés près de chez soi, on réduire les circuits, etc. Est-ce que ça fait partie des éléments que vous avez pu entendre et mesurer?
Je pense que là, Denis va pouvoir effectivement vous le confirmer, mais je pense que ce qui a été le plus évident, c'était l'engouement donc pour le potager, l'achat de plants maraîchers, etc.
Vous envisagez justement cette formation qui arrive là, nouvelle pour l'année prochaine, c'est ça aussi?
Ça en fait partie, ça fait partie de la réflexion. Et puis d'une façon un petit peu plus générale, vous savez, les territoires doivent mettre en place leurs projets territoriaux alimentaires.
Oui.
Donc il y a des démarches aussi comme ça, un petit peu au long cours, dans lesquels on s'inscrit. Dans certains quartiers, on s'est aperçu que les gens, finalement, s'ils étaient cloîtrés chez eux, il n'y avait pas en bas de l'immeuble de jardin où aller se nourrir, il n'y avait pas de structure comme ça. On s'est aperçu qu'on était très hors sol, en quelque sorte, avec une alimentation qui vient de loin, mais tout d'un coup, si les circuits sont interrompus,
c'est compliqué,
sans rien. Mais
bien sûr.
Donc, il faut trouver des formes de résilience, là encore aussi, qui permettent, dans un contexte plus difficile, de faire en sorte qu'on puisse se nourrir sur place.
Votre avis,
Alors, c'est clair que l'année dernière, on va dire, sur le plan commercial, ça a été très compliqué, avec un mois de mars où on était en grande panique parce que toutes nos productions étaient lancées par rapport à notre clientèle, le grand public et nos productions de légumes. Donc, on a tout arrêté pendant 3 semaines, avec une grosse panique des plantes qui poussent dans les serres et on ne savait pas quoi en faire. Et puis, un mois d'avril et mai un peu gantesque par rapport à la demande générale de légumes, des gens qui ont dû se rendre compte qu'ils avaient un jardin et que, en fin de compte, les vacances de Pâques, ils allaient le passer dans le jardin, donc il fallait qu'il soit agréable, que le jardin était un lieu aussi de rencontre sociale un petit peu, et que c'était clair qu'ils ne partaient pas au ski, qu'ils ne partaient pas en vacances à l'étranger, et donc il y avait besoin d'exotisme chez soi ou de services à proximité. Et donc ça a été assez impressionnant, et pour l'instant, la vague, je dirais, c'est le grand mot en ce moment, la vague du jardin et du jardinage continue à faire surfer toutes les entreprises du paysage et les producteurs horticoles, parce que c'est à l'échelle nationale, on sent quand même qu'il y a un réel engouement et ça fait beaucoup de bien. Et puis, je dirais que dans les zones urbaines comme on est, nous, on est partenaire aussi avec les jardins du Gigot qui sont à côté de chez nous, là, derrière les terrains de sport. On sent aussi que ces jardins familiaux ou ces jardins ouvriers sont des lieux aussi un peu de croisement social, et donc ça casse un peu le carcan du confinement. Et les gens ont un endroit pour pouvoir s'extérioriser et puis rencontrer un petit peu, échanger. Ouais. Et donc il y a un vrai rôle social du végétal et du jardin autour de tout ça.
Je vous propose de faire une petite pause musicale.
Oui.
Et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre nos échanges.
setting the course. The roads are cracking the whip. It's some incredible force. Well, that's one hell of a trip. It's not quite justified. Well, I don't care if it dies. It's entertainment. Don't call it cruel. Define exploitation. Well, that's one hell of a quip. Not quite binding. Lawns, discussing chemtrails and the problems in our schools. It's not my fault, you can't tell me that I'm wrong. Well, I don't care for anything apart from my returns. And if I bet my 401k, what's the harm? Doctor took my kid in a new 5-bedroom home. Don't wanna hear you complain about your loans, you're just not qualified. And I wouldn't place a bet if you paid me. I'd always end up losing my money. I'm so stupid, horse again. I'm not here to make friends. Like all you comprehend, it's just not all that grand. And this is not my hill to die on. This is not my hill.
Ça, ça nous réveille. Ouais! Grande nationale! Le titre, Courting. Le pire reste à venir. C'est en direct tous les matins de 8h à 9h. Rediffusion à 11h pour les leftards. Et puis, c'est une émission qui est podcastée. Hein, c'est-à-dire que ça part sur les internets quand ça fonctionne bien. Ça y est, ça fonctionne. On est heureux, on est heureux. Bon, mais ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre voyage au sein du lycée horticole. Vous savez, l'hortipole. Allez, on prend le vélo moteur et on y retourne. En direct ce matin avec Vincent Malot, directeur d'établissement lycée horticole Hortipole, et Denis Châtelain, directeur de l'atelier technologique. Ça va, messieurs ?
Ça va toujours très bien.
Toujours bien.
Toujours très bien.
Bon, parfait. Voilà. Alors, on discute bien évidemment avec les micros, mais aussi hors micro. On rappelait certains éléments là. Effectivement, souvenez-vous, l'année dernière, c'était un peu compliqué. On en parlait avec Denis à l'instant sur cette histoire de début de confinement. Vous me disiez à l'instant que, bah oui, forcément, vous élevez dans des serres. Hein. Il y avait pléthore de végétaux, etc. Qu'est-ce qu'on fait des géraniums quand tout le monde est confiné? Il faut se battre. Il faut les écouler, comment, hein, c'est ça?
Est-ce qu'on va arriver, oui, à les commercialiser? Est-ce que la clientèle va pouvoir revenir?
Voilà.
Voilà, ben, une plante, ça se fait entre 6 et 2 ans. Donc, on a tout anticipé. Et, ben, quand on a un événement comme celui-là, c'est sûr que c'est... Et... C'est des grosses questions.
Produire des fleurs, est-ce que c'est essentiel?
Est-ce que la plante, est-ce que le végétal est essentiel?
Non, mais
oui,
c'est ça.
Oui. C'est la question qu'il faut poser, mais je pense que c'est la même chose aujourd'hui entre la culture et,
bien sûr,
et autres.
Ouais.
La culture, l'agriculture, l'horticulture. Non,
voilà, horticulture, il y a toujours culture, c'est toujours de la culture. Ces moments d'incertitude, vous les vivez encore en ce moment, au bout d'un an?
On va dire qu'on on les relative un peu plus, et puis on se dit que bon, on est passé après la première très grosse vague, donc on va se dire que derrière, on va sûrement arriver à passer à travers les vagues tout simplement, quoi.
Ouais. Et vous me disiez hors micro aussi que maintenant tout le monde veut acheter son prunier et tout le monde veut planter son cerisier.
Oui,
c'est un peu ça.
Il y a une grosse demande sur les arbres fruitiers. C'est vrai que les pépinières ont été dévalisées un petit peu l'année dernière. Mm-hmm. Et ça, c'est en termes de cycle de production, effectivement, c'est plus lent. Hein. On fabrique pas, entre guillemets, un arbre fruitier en 6 semaines. Il faut 2 ou 3 ans. Donc, effectivement, là, entre ce que les producteurs avaient pu prévoir, mettre en culture, et puis la façon dont la demande a évolué, évidemment, il y a un décalage sur un certain nombre d'espèces. Vous savez, c'est compliqué. Il y a les espèces, puis après, il y a les variétés. L'autre jour, là, j'étais justement avec Denis sur l'atelier. Il y a un monsieur qui arrive. Donc, je voudrais une prune, mais vous savez, violette, comme ceci, nous décrivait. Donc, il voulait pas simplement un prunier. Il voulait celui-là, de cette variété-là.
Ouais, dont la prune fait très belle quand elle est cuite sur la tarte. C'est ça.
Non, je sais pas si c'était celle-là,
les demandes sont parfois très pointues, hein. Donc, sur les espèces fruitières, mais bon, dans les espèces florales, c'est aussi la même chose. Hein. On peut avoir des gens qui viennent en demandant, voilà, j'aimerais bien trouver
telle variété qui correspond
à telle couleur, etc. Donc,
il y a une évolution justement par rapport à ça, le fait que les personnes soient plus, je veux pas dire se professionnalisent, mais plus expertes en la matière. Et,
je pense qu'il y a un petit peu de tout, non, Denis? Il y a des gens qui ont des demandes assez basiques et puis d'autres qui se perfectionnent dans leur approche du jardin, non?
Après, ce qui est compliqué dans notre métier, oui, il y a les spécialistes. Il y a les spécialistes des médias.
Les collectionneurs aussi. Hein.
Les collectionneurs.
Les spécialistes des médias, les collectionneurs, et puis je vais dire, il n'y a aucun le grand public et puis les traditionnels. Et c'est très compliqué d'arriver à surfer sur tous ces styles de public-là. Je dirais que quelqu'un qui fait du bien au jardin, c'est Stéphane Marie, mais qui nous fait aussi beaucoup de mal parce qu'il trouve toujours la variété de derrière les fagots qui est...
Ça vous fait du mal, ça? Non,
c'est des questions un peu compliquées. Oui. Enfin, c'est parce que les gens viennent...
Je veux la plante dont il a parlé hier.
Vu à la télé, quoi. C'est voilà, sans plier.
Oui, c'est un peu ça.
C'est cette plante-là. Donc, on a toujours des choses qui sont assez approchantes et on arrive à répondre et puis leur expliquer que là, il faisait un jardin dans le sud de la France et qu'on est en Normandie. Donc, on a peut-être des petites choses à adapter localement et ça c'est important. Et c'est compliqué par la diversité des publics.
De plus en plus, des particuliers se spécialisent aussi dans le fait d'ouvrir leur jardin à autrui, la visite. Je prends un exemple, parce qu'on l'a reçu il y a quelques mois, c'est le jardin de Pan, pas très très loin d'ailleurs du lycée horticole à Évreux. Et vous parliez à l'instant de Stéphane Marie, puisque je crois qu'ils sont venus faire une émission chez Peter, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est une personne, ils sont deux amis qui mettent à disposition leur jardin pour des visites. Et puis également, on parlait de lieu de vie, côté social dans la chose, avec la possibilité aussi de faire des petites animations musicales, des concerts, des expositions, etc. Votre avis sur le fait que des gens s'impliquent comme ça
Je dirais que depuis, il faut voir l'évolution entre les années 80 et les années 2020, pour faire très, très simple.
Ouais.
En 80, on faisait son jardin pour soi. Et
aujourd'hui, on l'ouvre à autrui.
Maintenant, on revient, mais c'est les travaux qu'on mène quasi depuis 10 ans sur Hortipol aussi, en travaux d'expérimentation.
Ouais.
On revient sur le côté multifonctionnel du jardin.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qui m'est assez cher. C'est-à-dire que le jardin, ce n'est pas que beau, mais ça peut produire quelques légumes, ça peut accueillir de la biodiversité, ça peut aussi faire quelque chose qui amène la culture au sens générique des choses. Donc le land art qui progresse, les concerts au jardin sont de plus en plus intéressants. Je pense qu'il commence à y avoir des restaurants au jardin aussi. Donc ça redevient un vrai cadre de vie et une vraie pièce de la maison, je vais dire, si on peut utiliser ces termes-là.
Justement, on parlait de formation tout à l'heure pour les plus jeunes. Hein,
oui.
Aujourd'hui, vous êtes aussi, vous proposez des mini-stages.
Tout à fait.
Pour Monsieur Lambda, pour...
Alors, les mini-stages...
Comment ça se passe? Comment ça s'articule, cette histoire? C'est sur des demi-journées, des journées, sur des thématiques précises? Ça, je pense que c'est un sujet qui sera abordé dans le cadre des portes ouvertes.
Tout à fait. Et donc, nous, les mini-stages qu'on propose s'adressent à un public de collégiens. C'est notamment l'orientation en troisième. Hein. Mm-hmm. Donc, pour permettre aux jeunes de tester un petit peu, de confirmer leur intérêt pour nos métiers. Donc, les mini-stages, en général, ils se déroulent sur une journée. Hein, c'est ça.
Une journée d'immersion, en fait.
D'immersion, ils viennent, ils rejoignent une classe.
Oui. Hein.
Et donc, de février à mai, en dehors des vacances scolaires. Et donc, l'idée, c'est que voilà, les responsables du collège ou la famille éventuellement prend contact avec nous pour qu'on identifie le jour sur lequel le jeune peut venir faire son mini-stage. Mm-hmm. Et puis, effectivement, du coup, ça lui permet notamment sur des... On choisit des jours où il va y avoir des travaux pratiques, où il va y avoir des choses à réaliser comme ça. Et ça va lui permettre de venir se rendre compte un petit peu si ce métier-là est fait pour lui. On a aussi des stages de découverte de 3 jours qui peuvent être un petit peu plus longs avec internat possible sur l'établissement.
Ça se passe sur les vacances, des vacances scolaires par
exemple ? Non, ça se passe sur le temps scolaire, c'est-à-dire que le jeune du coup est intégré dans une classe hein, pendant la journée.
Oui.
Et donc on fait un petit débriefing en fin de journée, voir comment ça s'est passé. Et donc ça qu'on remporte quand même, on a tous les ans plusieurs dizaines de jeunes comme ça qui viennent et qui peuvent comme ça déjà se faire une idée, découvrir nos formations, que ça soit en horticulture, dans les domaines de la nature aussi, hein, on parlait surtout du paysage, mais on a une formation à bac pro gestion des milieux naturels et de la faune qui rencontre beaucoup de succès. Et donc, et puis les métiers de l'horticulture aussi. Donc tous ces métiers-là peuvent être découverts et, disons, découvrir aussi la vie dans l'établissement pendant une journée à travers ces mini-stages.
Mmh. Donc ça, c'est pour les élèves. Ma question, en fait, était aussi sur les parents ou les adultes, les grandes personnes, qui veulent un peu parfaire et évoluer un petit peu dans le jardinage. Est-ce que vous mettez à disposition des...
Alors, pour répondre rapidement, on n'est pas avare de conseils,
ouais,
entre guillemets, sur notre site pour les particuliers en individuel.
Mm-hmm.
Il est vrai que ça fait plusieurs années où on sent la demande poindre par rapport à des ateliers, on va utiliser plutôt ce terme-là plutôt que les mini-stages, des petits ateliers jardinage.
Mm-hmm.
Et là-dessus, faut avouer qu'on a du mal à mettre en œuvre les choses parce que c'est compliqué à manager. Puis je vais dire que les 2 dernières années qui viennent de se passer avec différents éléments, ces événements, c'est quand même compliqué d'offrir ces choses-là. Après, on renvoie assez facilement sur, on en parlait tout à l'heure,
sur
les associations, les jardiniers de l'heure, par exemple, l'ADH aussi, l'association départementale d'horticulture, là, qui est sur Évreux aussi, avec qui on travaille et avec qui on a des très bonnes relations. Plutôt que mais la demande de l'animation du savoir-faire au jardin, on va utiliser ces termes-là, c'est vrai qu'elle est importante et même dans des projets plus conséquents en ce moment sur lesquels on discute avec la ville d'Évreux et l'agglomération d'Évreux sur le verdissement des quartiers, entre autres la dernière c'est Netreville, où justement ce savoir-faire d'animer les jardins, d'accueillir les gens pour leur expliquer déjà comment fonctionne un jardin et qu'il ne faut pas peut-être piétiner partout, qu'il ne faut pas cueillir n'importe quand et n'importe comment. Et puis, comment on soigne ces plantes diverses et variées, c'est des choses qui... C'est encore, on parlait tout à l'heure d'avenir, c'est des choses à réfléchir dans l'avenir pour trouver les solutions.
C'est ce que l'on appelle l'éco-conception ou c'est encore autre chose?
Non, l'éco-conception, c'est une réflexion en amont de son jardin pour réfléchir sur les éléments de diagnostic du jardin, d'environnement, etc., pour prendre en compte et faire les meilleurs choix pour l'avenir. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir le temps de tondre ma pelouse? C'est une question très bête. Oui, non.
Mm-hmm.
Si c'est non, quelle solution je vais pour avoir une bonne pelouse? Est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que ça me plaît de gratter la terre tous les 3 semaines pour faire mes salades? Non. Est-ce que j'ai des solutions? Et donc, aménager son jardin en réfléchissant à la meilleure, aux meilleurs usages possibles et aux meilleurs respects environnementaux. On parlait tout à l'heure de côté écologique. C'est d'avoir le jardin le plus écologique et le plus fonctionnel, je dirais, par rapport à ses attentes.
Par rapport à ce que vous proposez, justement, pour l'aménagement paysager, etc., est-ce que vous avez des réflexions et ce qui se déroule dans d'autres pays? Est-ce que vous allez puiser un peu des informations? Est-ce que vous êtes en relation avec, par des stages à l'étranger, d'autres régions, d'autres pays, d'Europe ou d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que vous prenez des enfin, est-ce que vous en donnez? Est-ce que vous en récupérez? Tiens, ils font ça, nous on fait ça. Tiens, les Allemands, ils sont comme ça.
Ouais, c'est intéressant. Ben, effectivement, donc ça fait partie de nos missions, hein, de s'impliquer sur le plan de la coopération internationale.
Ouais.
Ça fait partie des 6 missions de l'établissement. Donc, de ce point de vue-là, il y a diverses initiatives qui sont prises. On a un partenariat avec un établissement au Maroc, l'école de Mohamedia, qui nous permet donc d'avoir des échanges avec eux. On a des étudiants donc qui viennent de cette école. Et puis, on a notamment nos étudiants en BTS qui réalisent des stages à l'étranger. Et donc, à travers ces stages, donc effectivement, ça permet d'avoir des échanges sur les pratiques qu'ils ont découvertes, etc. Alors, évidemment, l'année dernière, donc il n'y a pas eu de stage à l'étranger. Là aussi, on est dans un contexte qui est un peu contraint. Mais c'est vrai que toutes ces dernières années, on a eu des jeunes qui sont partis en stage au Canada, qui sont partis en stage en Asie, dans différents pays d'Europe, ou en Angleterre aussi, etc. Et donc, ça nous permet effectivement d'enrichir un petit peu nos pratiques sur le plan professionnel. Et puis, on est intégré aussi à des structures professionnelles horticoles, Institut technique de l'horticulture, et à travers les travaux d'expérimentation et des échanges qui se font avec effectivement nos homologues étrangers. Et on a aussi, au niveau du ministère de l'Agriculture, on a des systèmes d'appui, d'animation qui aussi développent et entretiennent des relations avec l'international. Donc l'établissement, il a ses propres initiatives, et puis en tant qu'établissement de l'enseignement agricole, il a aussi donc des actions qui sont relayés à travers les actions du ministère, et tout ça, ça enrichit tout ça.
Très bien, mais écoutez, en tout cas, on peut poursuivre ces échanges grâce aux portes ouvertes
de samedi prochain.
Oui. Merci infiniment, merci à Vincent Malot, directeur de l'établissement, Denis Châtelain, directeur de l'atelier technologique, donc de l'Hortipôle, lycée horticole, et là, voilà, on a essayé d'aborder un peu sur une heure, c'est court, hein. c'est déjà
ça
fini,
va vite, hein.
Ça va vite. Merci infiniment, messieurs, je vous rappelle donc samedi, portes ouvertes déjà.
Portes ouvertes, ouais. Retrouvez tout le lien sur notre site internet
eap.evreux.fr. On se quitte,
merci.
Au revoir.
Merci de votre accueil.
Au revoir.
Au revoir.